bonjour à nos amis de Radio Massabielle. Nous nous retrouvons, comme les semaines précédentes, hein, dans notre série d'émissions en direct sur les catastrophes naturelles. Donc nous avons eu l'occasion de recevoir un certain nombre de spécialistes, et en particulier pour nos dernières émissions, c'était les pompiers, les différents spécialistes du SDIS. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un problème un petit peu plus spécifique, plus préventif aussi, on va dire, puisqu'il s'agit des logements, des constructions. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mme Combé-Christine. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous travaillez à l'ADIL. C'est quoi l'ADIL?
Oui, alors je vais présenter l'ADIL hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, l'ADIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Donc c'est une structure associative financée par le département et agréée par le ministère du Logement, dont la mission est de renseigner gratuitement le public, le particulier, sur toutes les questions relatives au logement et à l'habitat. Donc nous sommes implantés en Guadeloupe hein, depuis la ville existe depuis 1994 et nous délivrons donc gratuitement au public des conseils juridiques, financiers et fiscaux sur les questions relatives au logement et à l'habitat. Donc ça peut être des questions concernant donc les rapports locatifs, la amélioration de l'habitat, la copropriété et tout ce qui concerne également la construction, donc sur les aspects contractuels, juridiques, la fiscalité du logement et donc tout ce qui concerne aussi les politiques publiques en matière de logement.
Donc, qui peut s'adresser à vous, les propriétaires, alors, les locataires?
Toute personne, donc voilà, s'agissant des rapports locatifs, on reçoit aussi bien des propriétaires que des locataires, mais toute personne qui aurait une question relative au logement, à son logement et à l'habitat, de manière générale.
Qu'il s'agisse de logements anciens ou neufs.
Voilà, qu'il s'agisse de logements anciens, futurs, puisque nous recevons également beaucoup de personnes ayant des projets d'accession à la propriété, donc nous les conseillons sur le financement du projet, des dispositifs d'aide en matière d'accession à la propriété. Donc toute personne qui aurait une question relative au logement et à l'habitat.
Alors si ce n'est pas indiscret, est-ce que vous avez des rapports fonctionnels, des rapports fréquents avec les agences immobilières?
Alors les agences immobilières, donc, alors en fait l'ADIL fait partie d'un réseau national, hein, j'ai oublié de le préciser, mais nous sommes, il y a 4 ADIL dans chaque département d'outre-mer, mais nous faisons partie du réseau national puisqu'il y a à peu près à ce jour 80 ADIL en France et DOM donc réunis. Et certaines ADIL donc, ont parmi leurs membres la Fédération des agents immobiliers.
D'accord. Voilà. Donc vous travaillez en bonne collaboration.
Oui, on a des rapports, on travaille en bonne collaboration. Il arrive que certaines fédérations versent une subvention également à l'ADIL, mais nous renseignons en tout cas prioritairement le particulier. Voilà.
D'accord. Parce que je me posais un petit peu la question à vous entendre, s'il n'y avait pas une jalousie, un petit conflit entre les agences immobilières qui font payer leur
service. C'est-à-dire que nos missions sont complètement différentes. L'agence immobilière, elle remplit une mission, elle fait payer un service, donc qui est généralement l'assistance à la gestion de biens. Notre mission est tout autre. Nous ne sommes pas une agence immobilière, nous sommes réellement un centre d'information neutre, voilà, donc il n'y a pas de contrepartie financière, les conseils sont entièrement gratuits à l'ADIL, mais notre mission se veut avant tout préventive, nous n'intervenons pas dans le contentieux, nous prévenons le contentieux. D'accord. Donc la mission des ADIL est vraiment aussi mission d'accès aux droits et à la connaissance de ses droits et de ses obligations. Donc si les ADIL ont été créés par le ministère du Logement, c'est avant tout pour que le particulier puisse bénéficier dans le cadre du logement d'un conseil complètement neutre et indépendant de toute transaction commerciale. Donc le but, c'est vraiment que la personne aussi puisse avoir un conseil, non pas seulement sur les rapports locatifs, mais sur tout ce qui concerne le logement. Donc ça peut être aussi, comme je le disais, l'amélioration de l'habitat, la copropriété, l'urbanisme également, les règles en matière d'urbanisme. Donc c'est notre champ de compétences est très très large.
Donc vous êtes un peu complémentaire du CAE.
Voilà, alors le CAE c'est une structure qui va délivrer des conseils, une structure amie on va dire de l'ADIL, mais qui délivre, vers qui d'ailleurs nous redirigeons nos consultants, mais qui va délivrer des conseils plutôt techniques, puisqu'il s'agit d'architectes conseils. Nous sommes des juristes à la DIL, donc nous nous attachons surtout à donner des conseils d'ordre juridique, mais aussi à relayer auprès des particuliers les politiques publiques en matière de logement.
Alors, question, est-ce que la population guadeloupéenne est informée de votre existence de manière suffisante? Est-ce que vous avez, je veux dire, une clientèle ou une influence qui correspond à vos souhaits?
Oui, parfaitement.
Ou est-ce que vous avez à vous plaindre que vos services ne soient pas suffisamment sollicités?
Non, nous ne nous plaignons pas, mais c'est vrai que c'est un travail quotidien, un travail de tous les jours pour conserver la confiance des particuliers qui nous consultent et pour, bien sûr, continuer à faire connaître la DIL et les missions qu'elle peut qu'elle remplit et les conseils qu'elle peut apporter aux particuliers. Donc, si vous voulez, rien n'est jamais acquis. Il faut en permanence, prouver l'utilité de son existence et se renouveler et bien sûr être à la pointe de l'information. Donc c'est pour cela que nous nous efforçons, grâce à notre réseau et donc à notre maison mère, l'ANIL, l'Agence nationale d'information pour le logement, de délivrer aux particuliers les dernières informations les informations les plus récentes en matière de logement et de relayer la politique de l'État en matière de logement.
Mais d'où c'est votre vrai présence à Radio Massabielle.
Voilà, donc nous efforçons bien sûr de communiquer non seulement à travers les médias, puisque nous publions également des articles dans certains journaux de presse, notamment les nouvelles de l'immobilier. Ouais. Nous participons également aux salons locaux, notamment les 3 jours de l'immobilier. Nous maintenons vraiment, et nous tenons à continuer à communiquer vis-à-vis du public, puisque c'est eux qui font que nous existons. Si les gens ne nous consultent pas, donc ça n'a pas d'intérêt.
Alors, de même que vous orientez vos consultants vers le CIAE ou d'autres.
Voilà, on fait beaucoup de réorientation à la DIL, puisqu'on est compétent surtout dans le domaine de l'information.
Voilà.
Donc l'idée, c'est que la personne qui vient à la DIL pour un conseil global puisse être redirigée par rapport à une demande particulière, qu'on puisse lui apporter la réponse de l'organisme qui pourrait également l'aider dans le domaine qu'elle recherche.
Et en amont, quels sont les organismes qui orientent les gens vers la DIL?
Alors, les structures publiques, voilà. Alors, les notaires, je l'ignore, c'est fort possible, ils peuvent être informés de même que tout un chacun. Donc voilà, c'est surtout beaucoup de bouche à oreille. Les personnes s'informent entre elles, elles ont entendu parler de la DIL par la presse, elles ont entendu une émission, elles ont eu un parent, un ami qui leur a dit d'aller consulter la DIL. Donc on a beaucoup de personnes qui nous consultent par le bouche à oreille, par connaissance des médias, suite à la visite sur un salon. On a également beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes qui ont eu connaissance de notre existence par le biais d'Internet, puisque nous avons un site Internet également, puisque nous sommes à l'ère du numérique, donc il est important de communiquer à travers ces outils de nouveaux, d'autant plus que c'est des outils qui touchent plus facilement le jeune public.
Absolument. C'est un site national ou bien...
Alors, nous avons notre site local, à ville.97.1, mais nous avons également un site national, le site de l'ANIL, l'Agence nationale d'information pour le logement.
Ok. Alors, quand quelqu'un est venu à vos bureaux, a bénéficié de vos services, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que vous gardez un contact? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, un compte rendu, quelque chose, des états statistiques à la fin de l'année?
Oui, alors nous...
Pour mesurer un peu le...
Bien sûr, c'est de cela dont dépend la poursuite de nos activités, puisque les financements que nous obtenons sont fonction du nombre de consultations effectuées.
D'accord.
Donc, pour chaque entretien réalisé, nous demandons à la personne de renseigner une petite fiche de renseignement anonyme qui a pour simple but d'avoir un traitement statistique et d'améliorer l'offre de services de notre ADIL, de mieux aussi proposer à nos partenaires, puisque nos conseils sont principalement orientés vers le particulier, mais nous intervenons aussi à la demande d'autres partenaires, comme des collectivités publiques, mairies, service d'Isère. Nous faisons partie d'instances aussi en matière d'habitat et de logement. Donc tous ces éléments nous permettent aussi de faire des propositions à nos membres en termes d'intervention, d'orientation des politiques publiques, etc. Donc on joue un rôle aussi de baromètre de la tendance en matière de logement pour nos membres qui souvent nous demandent sur quel thème nous sommes consultés. Donc cela nous permet d'être aussi une force de proposition pour nos membres et partenaires.
Absolument. Alors Christine, je rappelle à nos auditeurs qu'en ce mercredi matin, nous sommes en direct, donc s'ils veulent intervenir, ils peuvent appeler au 83 25 21 ou au 83 48 61. Bon, quand l'émission sera rediffusée, bien sûr, ils ne pourront plus intervenir, mais enfin, en ce mercredi matin, c'est possible. Si nous allons trop vite, si nous sommes imprécis ou n'importe quoi, ils peuvent appeler. Ou même pour témoigner, d'ailleurs.
Hein. Oui, bien sûr.
Si quelqu'un n'a pas été satisfait de son contact avec la DIL.
Nous restons très ouverts. Et à la critique, éventuellement, à condition qu'elle soit constructive.
Merci. Alors, le gros souci, enfin, un des gros soucis en matière de logement, de ce que j'en sais, c'est le problème de l'assurance. Il y a des gens qui ont des maisons individuelles ou des appartements et qui ne sont pas assurés. Ou alors qui ont une assurance minimale obligatoire, mais ils sont insuffisamment protégés. Et lorsqu'il y a un pépin, c'est-à-dire soit dégâts des eaux, incendies, choses comme ça, ou alors une catastrophe, cyclone, c'est à ce moment-là qu'on dit, aïe, 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 si j'avais su, mais il est un petit peu tard. Alors est-ce qu'à ce niveau-là, vous êtes amené à donner des recommandations, des conseils, j'allais dire, fermes aux personnes qui vous consultent?
Alors oui, bien sûr, c'est notre rôle. Hein, donc à toute fin utile, on est amené à rappeler aux uns et aux autres, donc, que les personnes soient propriétaires ou locataires, l'intérêt et l'obligation, je dirais même au-delà de l'intérêt, de souscrire à une assurance. Donc autant pour le propriétaire qui va par exemple soit occuper son logement, donc à sa résidence principale, ou mettre en location un logement, lui rappeler qu'il doit faire assurer les murs pour se prémunir effectivement des catastrophes naturelles, des intempéries, des risques liés donc à soit un incendie, mais s'il est occupant, ce sera donc tous les risques liés à l'occupation du logement, mais aussi les risques naturels. S'il met en location le logement, il devra de toutes les manières assurer les murs pour une catastrophe naturelle, cyclone, séisme, etc. Donc nous rappelons également au locataire l'obligation que lui donne la loi par rapport au contrat de location qu'il va signer, de souscrire également une assurance dite risque locatif. Donc une personne qui loue un logement, le propriétaire doit exiger d'elle, avant l'entrée dans le logement, que le locataire lui remette une attestation qui couvre les risques locatifs.
Mais ça ne se fait pas souvent, ça, quand c'est des locataires entre particuliers.
Le souci, c'est que souvent, les personnes ont tendance à être négligentes, soit elles ignorent aussi l'importance de l'assurance, soit c'est plutôt souvent de la négligence, je dirais, où elles y pensent, mais bien souvent, lorsque le locataire est déjà rentré dans les lieux, le propriétaire va beaucoup peiner à obtenir l'attestation, alors même que la personne est déjà dans le logement. Donc, il faut bien la demander en amont.
D'accord, merci Christine. Alors, nous avons un appel téléphonique. Oui, j'écoute, bonjour.
Oui, bonjour. Voilà, je voudrais avoir le numéro de téléphone de la DIL, s'il vous plaît, la société Christine. Même.
Oui, alors j'allais rappeler en fin d'émission peut-être, mais je vais vous le donner. Donc nous sommes joignables au 89 43 63, le 0590 89 43 63, sachant que nous recevons donc sur rendez-vous du lundi au jeudi, et que sinon le mardi matin nous assurons une permanence au siège de la DIL sans rendez-vous.
Si vous le jeudi matin?
Du lundi au jeudi, c'est sur rendez-vous, donc vous devez prendre un rendez-vous. Si vous voulez venir sans rendez-vous, ce sera uniquement le mardi matin. Et autrement, on peut répondre à une petite question au téléphone. Il y a une permanence téléphonique tous les jours, du lundi au vendredi, de 7h30 à 9h. Mais pour des questions rapides. Autrement, si c'est quelque chose qui est complexe, on vous conseillera de prendre un rendez-vous.
D'accord. Donc c'est
89 43 63.
Merci.
Merci, au revoir madame. Bon, mais voilà.
Question pratique.
Absolument, mais C'est vrai que le premier réflexe des gens qui ont un pépin, c'est de téléphoner. Hein.
Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours, au téléphone, être aussi efficace.
Eh
parfois,
oui,
nous avons besoin de
détail.
Voir les documents, le bail. Donc, il est préférable souvent de prendre rendez-vous.
Alors, Christine, il y a un petit point particulier que je connais personnellement. C'est le cas du local qui est occupé par un proche. Un enfant, un aïeul, qui n'a pas le statut de locataire en fait, il ne paye pas de location,
oui.
Le local est mis à sa disposition, alors comment on doit analyser le problème? Est-ce que le local est censé être occupé par le propriétaire?
Alors,
ou est-ce que l'occupant gracieux, gratuit est...
Oui, alors si c'est un local qui est complètement
dissocié,
autonome,
oui, oui.
Il est préférable que l'occupant, même s'il n'est pas locataire, souscrivent à une garantie pour les risques dits locatifs, malgré tout. Ce n'est pas forcément lié à la location au paiement du loyer, mais c'est lié à l'occupation d'un logement dont on n'est pas propriétaire.
D'accord.
Il faut savoir que légalement, toute personne qui occupe un local est présumée responsable en cas d'incendie. Donc si vous êtes propriétaire, mais que vous n'occupez pas ce local, mais que vous le mettez à disposition,
oui,
d'un tiers, qu'il soit un proche ou pas, cette personne doit quand même souscrire une assurance en cas de souci, parce que si vous voulez faire jouer votre assurance, elle ne couvrira que les murs. Et vous n'êtes pas propriétaire occupant, donc en cas d'incendie, vous pourriez être très mal indemnisé s'il s'avère que ce n'est pas vous qui vivez dans le logement. Donc il est préférable de faire souscrire à cette personne une garantie au moins contre l'incendie et le dégât des eaux. D'autre part, si cette personne a des effets personnels dans le logement, il est préférable aussi qu'elle souscrive une garantie contre le vol. Parce que là aussi,
oui,
vous ne pourrez pas faire assurer contre le vol un logement où vous n'avez pas vos effets personnels stockés.
Alors, deux autres questions. L'appartement est en hauteur, il y a un balcon. Sur le balcon, il y a des pots de fleurs, et un pot de fleurs tombe et blesse quelqu'un au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'il joue là? C'est la responsabilité civile.
La responsabilité civile, oui. Donc généralement, c'est associé au contrat multirisque habitation, ce qu'on appelle une RC, une assurance responsabilité civile, pour les dommages que vous pourriez causer, soit volontairement ou involontairement à un tiers.
Mais là, c'est un autre domaine. En fait, c'est
oui,
une
oui,
autre
c'est
assurance.
Oui, vraiment, voilà, c'est une assurance spécifique. On ne peut d'ailleurs souscrire parfois qu'à une RC, mais il vaut mieux en avoir une.
D'accord. Deuxième question, nous sommes en période de rentrée scolaire et universitaire. Il va y avoir beaucoup de colocations, hein,
oui,
plusieurs étudiants qui occupent un même appartement, par exemple. Comment ça se passe pour eux?
Il est préférable que chacun souscrive de façon personnelle à une assurance risque locatif et responsabilité civile.
Ah. Mais dans ce
même
cas,
en colocation, puisqu'ils occupent un espace personnel quand même, qui est leur chambre,
ouais,
même s'ils partagent un espace commun.
Oui. Mais
donc
est-ce
il est
que
préférable
les compagnies...
que chacun s'assure.
Est-ce que les compagnies d'assurance
prévoient
des tarifs quand même à...
Le tarif est souvent fonction de la superficie du bien, oui, qui est garantie.
Mais pas du statut d'étudiant de...
Non,
de
alors oui, mais il y a des tarifs, on va dire, parfois un petit peu plus avantageux. C'est en fonction des compagnies, il faut se renseigner. Il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence dans ce domaine. Hein, donc, voir... plusieurs assureurs et comparer les tarifs.
Donc le propriétaire du logement qui a des colocataires,
oui,
doit faire en sorte que ces gens-là, que ces jeunes-là...
Oui, alors il est préférable. Après, il y a toujours la possibilité, mais ça, il faudrait que les propriétaires se renseignent auprès de leur assureur, de souscrire une assurance, c'est souvent le cas lorsqu'on loue en meublé, une assurance qui va couvrir les risques locatifs dans le logement.
Ah, d'accord.
Donc à ce moment-là, l'occupant n'aurait qu'à souscrire à une responsabilité civile. Ça,
d'accord,
peut limiter les frais. Mais ce ne sont pas toutes les assurances qui proposent ce service d'assurance pour compte,
d'accord,
on va dire.
Entendu.
Donc les propriétaires peuvent se renseigner pour savoir si leur assurance, dans le cas de la location non meublée, peut couvrir le logement.
Oui.
Voilà.
Bon, alors je voulais passer à une deuxième partie de notre entretien.
Mm-hmm.
Dans des émissions précédentes, nous avons évoqué des risques naturels,
mm-hmm,
les cyclones, les inondations, etc., et surtout les risques volcaniques et sismiques.
D'accord.
Bon, nous avons eu le plaisir, sur différentes antennes, d'entendre des architectes et des et les spécialistes de bureaux d'études parlaient des normes en vigueur et qui évoluent sans cesse sur les constructions antisismiques, et y compris sur les anomalies de la législation, puisque des normes européennes sont appliquées dans des zones caraïbes, bon, c'est pas toujours très opportun, mais enfin, peu importe. Alors, est-ce que la DIL a des conseils, des recommandations, des pratiques concernant donc la construction en Guadeloupe, enfin, dans les DOM, dans les zones sensibles sur le plan sismique?
Oui, alors voilà, nous n'ignorons pas effectivement que notre département est en zone de sismique 5, donc ce qui le place quand même au plus haut niveau en matière de risque sismique. Donc ça veut dire que autour de cette connaissance du risque, il faut développer une stratégie. Et cette stratégie de prévention, c'est une stratégie de prévention parce que nous savons bien que contrairement aux autres risques naturels, notamment le risque cyclonique, il n'est pas possible de prévoir l'arrivée d'un séisme. Donc les seules choses dont on peut la seule chose qu'on peut faire, c'est organiser la prévention. Et on sait très bien que ce n'est pas le séisme en lui-même qui tue, mais l'effondrement des bâtiments qui sera provoqué par le séisme et qui sera susceptible de faire des victimes. Donc, connaissant ce point, ayant connaissance de cet élément, ce qu'on peut faire, c'est se prémunir en construisant des bâtiments qui résisteront en cas de séisme et qui pourront au moins donner une chance à leurs occupants de s'extraire du logement avant qu'ils ne s'effondrent, ou en tout cas qu'ils vont résister aux secousses et qu'ils n'auront pas le temps de s'effondrer sur les personnes, risquant de les blesser grièvement, voire même de les tuer. Donc ça passe par justement l'application de normes dans la construction, les précautions élémentaires en matière de construction. Donc, autant pour les bâtiments publics que pour les bâtiments des particuliers qui n'échappent pas aux normes de construction dites parasismiques.
Voilà. Tout au moins lorsque ces constructions sont faites dans des conditions légales, avec un architecte,
voilà,
avec
un maître d'œuvre. C'est toujours ça le problème, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a le texte, mais on sait qu'en pratique, voilà, bien des personnes feront l'économie de tout ce système normatif parce que d'une part il n'y aura pas de contrôle réellement du respect des normes. Les normes, elles vont être éditées, donc la personne qui fait construire, qui demande son permis, attestera simplement qu'elle a respecté dans son plan, dans la conception de son projet, les dites normes. Mais après, est-ce qu'il y aura une vérification, un contrôle ? Pas du tout. Est-ce qu'il y aura une sanction si ces normes ne sont pas respectées? Pas du tout. Donc, on en arrive justement à ce constat que il en va de la responsabilité de chacun. Et donc, on est obligé, nous, à la DIL, de rappeler aux personnes l'importance d'une construction bien menée pour se prémunir au maximum de ces risques.
Et est-ce que les gens sont...
Oui, de plus en plus, parce qu'il y a eu aussi le retentissement du séisme en Haïti,
ouais.
Où les gens ont bien vu. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de comparer, parce que le niveau de développement n'est pas le même, mais on voit ce que ça a pu donner, ce que ça peut donner quand les constructions sont pas du tout, aucune norme n'est respectée, que bien aussi la population n'est pas préparée, donc les dégâts sont d'autant plus importants. Donc ici, nous avons quand même la chance d'être dans un système où les normes existent, elles ont en tout cas le mérite d'exister, donc il en va de la responsabilité de tout un chacun, de se renseigner, de savoir comment il peut agir à son petit niveau, ou à son niveau tout simplement, pour construire utile et durable.
Mais comment on peut expliquer qu'il y ait tant de gens qui investissent, donc qui mettent en œuvre des sommes relativement importantes, vu leur train de vie, pour construire une maison où ils ont l'intention de passer le reste de leur vie, et qui ne prennent pas la précaution d'appliquer ces normes?
Il y a deux points. Il y a premièrement le premier point, c'est l'aspect financier. Donc effectivement, construire une construction en respectant bien les normes, ça implique un coût. ça implique un coût dont qu'il faudra assumer.
Oui, mais ça ne représente pas 50% du prix de la construction quand même.
Je n'ai pas de notion d'économie de la construction, mais ça représente un coût parce qu'il va falloir réaliser en amont un certain nombre de choses. Il va falloir s'entourer de professionnels. Donc parfois, ça peut représenter un certain coût. Donc on sait aussi qu'il y a des pratiques qui sont encore... Qui subsistent encore, notamment la construction, on va dire, ce qu'on appelle en coup de main, donc ouais. des constructions qui échappent parfois à tout contrôle, par des professionnels formés, aguerris, etc. Donc ça peut aussi constituer un risque. Ce n'est pas pour critiquer de façon stricte. Le recours au coup de main, mais il y a des risques à recourir à ce type à ce mode constructif, en tout cas, surtout lorsqu'on veut appliquer la réglementation. Je dirais, chacun son métier. Un architecte, un ingénieur en bâtiment, son rôle, c'est justement de faire les calculs, de vérifier que la construction sera faite dans le respect de ces normes. Donc la première des choses, c'est de s'entourer de professionnels sérieux, de vérifier les garanties qui sont obligatoires, que la loi donc oblige tout constructeur à souscrire, de soi-même s'assurer qu'on dispose de toutes les garanties, et de concéder l'idée qu'il faudra mettre un coût si on veut construire parasismique. On peut choisir par exemple de miser tout sur l'esthétique, l'aspect tout ce qui est embellissement décoratif, mais c'est pas ce qui va faire que la maison sera solide. Donc après c'est un choix aussi, faut faire le choix de construire parasismique. Ça c'est un coût.
La DIL est en lien avec l'État, le ministère du Logement, avec le département, avec les municipalités. Vous avez donc une connaissance des rapports que peut entretenir un chef d'édilité avec un particulier qui construit. Donc, je veux dire par là que dans une ville comme Pointe-à-Pitre, il est pas imaginable que quelqu'un construise ne serait-ce qu'un garage sans avoir un permis de construire. Mais par contre, à la campagne, il y a des gens qui font des vrais châteaux parfois sans permis de construire. Alors comment ça peut s'expliquer? Puisque une fois que la maison sera construite, il faudra amener l'eau, l'électricité et le téléphone, et là la mairie va intervenir. Comment une municipalité peut ne pas appliquer la réglementation et fournir ses alimentations à quelqu'un qui n'est pas en règle?
Oui, c'est une bonne question.
Ça comptait quand même pendant la construction. On voit que la maison monte.
Oui, j'ai pas spécifiquement de réponse. Effectivement, c'est des cas dont on a pu aussi nous-mêmes avoir connaissance. Bon, ceci dit, maintenant, ça reste quand même assez marginal. Les gens savent quand même qu'ils doivent déposer une demande de permis, parce qu'effectivement, sans permis, ils ne pourront pas raccorder le logement. En tout cas, théoriquement, ils ne peuvent pas raccorder le logement au...
Sauf en piratant.
Voilà, soit par des méthodes, sur lesquelles on va pas s'étendre, mais de façon légale, il n'est pas en principe possible d'obtenir un raccordement à l'eau ou l'électricité si la construction n'a pas été validée par une autorisation d'urbanisme.
Donc, ça s'est beaucoup fait. Peut-être que ça a diminué, mais...
Par rapport à ma pratique à la DIL, je vois ce genre de situation. Ça m'est arrivé d'en avoir connaissance, mais je dirais que c'est pas le plus courant. Le permis de construire, justement, les gens y sont attachés parce que souvent, elles associent l'obtention du permis à plus ou moins leur droit de jouissance ou de propriété, entre guillemets, du terrain, qui n'est pas en soi lié du tout, puisque la mairie présume que celui qui demande le permis est bien propriétaire du sol, donc elle ne recherche pas forcément. Mais disons que au moins la plupart des gens ils sont souvent pour vous bien vous prouver qu'ils font les choses dans les règles, ils vont vous dire oui mais j'ai eu mon permis de construire, la mairie m'a donné mon permis. Donc en fait maintenant il y a plutôt cette tendance à revendiquer l'obtention du permis. mais ça ne veut rien dire. Voilà, le permis, c'est une autorisation simplement qui atteste que ben, sur ce terrain, l'autorisation vous a été donnée de poursuivre une construction et que vous vous engagez à la faire dans le respect des normes. Bon, après la suite, c'est ce que je disais, c'est par rapport au contrôle qui n'est pas forcément fait sur le respect de ces normes.
Bon, prenons un autre aspect des choses. Supposons que je sois un banquier et que quelqu'un vienne me demander un prêt parce qu'il veut construire. Mm-hmm. Bon, je vais accorder le prêt sous réserve d'avoir une garantie sur l'immeuble qui va être réalisé.
Oui, hein, alors le banquier a une mission de contrôle de certains éléments du dossier. Hein, donc, s'il y a une construction, il devra vérifier le contrat du constructeur ou les éléments contractuels, vérifier que à ces éléments sont joints les garanties obligatoires. Donc pour rappel, je vais faire un point. Lorsque vous passez par un constructeur, soit un constructeur clé en main ou une association de différents corps d'État, vous devez exiger pour l'ensemble des intervenants, donc ça va de l'architecte au carreleur, à l'électricien, donc à tout intervenant, le constructeur au sens large, c'est toute personne qui intervient à l'acte de construire. C'est ce que dit donc l'article 1792 du Code civil, est réputé constructeur toute personne qui intervient à l'acte de construire. Donc chacune de ces personnes individuellement, ou si c'est un constructeur clé en main, devra vous fournir une garantie décennale.
Oui.
Donc c'est une garantie de construction qui vous protège contre des risques, malfaçons, voilà, qui pourraient affecter la solidité ou rendre le logement impropre à son usage au cours des 10 années qui suivent l'achèvement des travaux. Donc ça veut dire que si survient dans ce délai un désordre de construction, vous pourrez mettre en jeu la responsabilité du constructeur et vous faire indemniser par cette assurance, même si et quand bien même le constructeur a entre-temps fermé sa boutique ou il a fait faillite, voilà, l'assurance survivra pendant 10 ans. Par-delà l'assurance décennale qui est l'assurance du constructeur, vous, maître d'ouvrage, c'est-à-dire vous qui faites construire votre maison, vous devez également souscrire ce qu'on appelle une assurance dommage-ouvrage. Donc cette assurance est complémentaire de la décennale, mais elle a l'avantage d'intervenir en préfinancement. Ça veut dire qu'une fois le désordre avéré, constaté, vous pouvez demander à l'assurance d'intervenir avant toute recherche de responsabilité. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à savoir qui est responsable du désordre. Une fois que le désordre est constaté, l'assurance vous rembourse immédiatement le montant des travaux. Il faut savoir que malheureusement, ça peut être sur des choses minimes, mais ça peut aller parfois, si c'est des problèmes qui touchent aux fondations, jusqu'à la démolition, reconstruction du bien. Et nous avons déjà eu ces cas à la DIL où il a fallu intégralement démolir le logement parce que les fondations n'avaient pas été faites correctement.
Mais j'ai un proche, après la garantie décennale, la 11e année, il a constaté que le sel sortait des murs parce que le béton avait été fait avec du sable de mer non lavé. Et il a fallu 10 ans pour que cette exsudation se manifeste. Oui. Et malheureusement, c'était trop tard.
Oui, passé le délai de 10 ans, malheureusement, il n'y aura pas d'autre possibilité hormis la voie judiciaire, mais il faut encore que le coupable soit toujours, le constructeur existe toujours, et puis c'est des procédures souvent longues et coûteuses, puisqu'il vous faudra amener la preuve de l'implication de la faute du constructeur.
Ok. Thank you. sommes toujours en direct sur Radio Massabielle et aujourd'hui nous recevons l'asile afin de parler des problèmes de construction, de logement, de garantie, d'assurance, etc. etc. Alors, Madame Combé, Christine, nous exposait le rôle, le type d'intervention que fait l'asile. Elle nous a indiqué les domaines dans lesquels l'asile est utile à la population et participe à la sécurité générale, hein, puisque oui. c'est un petit peu le thème de notre série d'émissions, hein, c'est la prévention
du risque
des pépins, voilà.
Naturel.
Voilà. Alors, est-ce que Christine peut nous donner quelques conseils précis, concrets, sur les précautions à prendre quand on veut construire, quand on doit construire?
Alors, la première des choses, quand nous recevons donc des personnes qui envisagent un projet de construction, donc nous allons bien sûr leur rappeler les différents modes de construction qui s'offrent à elles. Donc, sachant qu'en matière de construction, il est possible de choisir, comme je disais, d'opter pour un constructeur unique, donc ce qu'on appelle un contrat de construction de maison individuelle, hein, donc où le constructeur va être votre seul interlocuteur et va employer des sous-traitants sur place qui vont donc réaliser les travaux. Vous pouvez opter aussi pour des contrats de marché sous la direction d'un architecte avec généralement un bureau d'études pour la réalisation des plans de structure. Et il est possible aussi de passer par simplement un entrepreneur et plusieurs corps d'État, mais c'est vous qui menez à ce moment-là les travaux et qui participez donc au déroulement, à la coordination de ces différents corps de métier.
En supportant toutes les responsabilités.
Voilà, puisque vous pouvez éventuellement prendre simplement l'architecte pour le plan, mais il n'assurera pas la mission complète, voilà, le suivi et la coordination des travaux ainsi que les opérations de réception. Donc c'est un choix souvent guidé par les finances, parce que bien sûr si vous prenez le professionnel, il vous en coûtera les honoraires, hein, habituellement, mais je dirais que c'est peut-être un coût utile à ce que vous soyez parfois bien entouré. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Si on sait qu'on n'aura pas la capacité, la disponibilité pour pouvoir mener soi-même son chantier, il vaut mieux le confier à un professionnel dont c'est le travail. Donc la toute première chose, c'est qu'on renseigne la personne sur les différentes options en matière de construction. Quand il s'agit de l'achat du terrain, on va également la conseiller donc dans la vérification de certains documents. Donc bien sûr, ça passe par la vérification du plan local d'urbanisme en mairie, voilà, donc savoir exactement par rapport à la constructibilité du terrain dans la zone où on envisage la construction. Vérifier également le plan de prévention des risques naturels si la mairie donc a approuvé un plan, pour savoir si le terrain est situé dans une zone, puisqu'il y a un code couleur, hein, pour chaque zone, qui va d'ailleurs changer avec la réforme de la loi Allure, qui envisage de simplifier justement la codification des risques naturels. Donc les codes permettent simplement, ça va pour l'instant c'est du rouge au blanc, donc quand on est en zone rouge évidemment c'est non constructible. Après il y a une gradation qui permet de savoir si on peut construire ou pas, ou de construire avec des contraintes particulières, ou simplement où on est dans une zone sans aléas particuliers.
Pour que nos auditeurs comprennent bien, quand on est en zone rouge, c'est dans quel cas de figure?
Souvent, quand on est sur une faille. Ça peut être alors en zone sismique, ça peut être sur une faille, ça peut être aussi dans la zone, s'il y a un risque volcanique dans une zone qui est soumise à l'aléa volcanique, ça peut être aussi dans une zone inondable, à proximité d'une rivière, avec un risque de crue, d'inondation, voire de glissement de terrain. Ça peut être aussi dans une zone où il y a des problèmes de liquéfaction de sol, ça peut être dans une zone soumise à houle cyclonique en bordure de mer. Hein. Donc souvent dans toutes ces zones aujourd'hui, il ne sera plus possible d'obtenir un permis. Donc voilà, on a vu. Hein,
et le bon sens des gens
Oui, alors ça a toujours existé, si vous voulez. Les anciens vous diront qu'il y a toujours des endroits où, avant même que les les autorités ne mettent en place ce système de plan de prévention des risques, les gens ont toujours su que certaines zones étaient soumises à des risques, des aléas, que ce soit des rivières qui montent, de la houle, voilà.
Ou même des anciens lits de rivière, puisqu'on disait voilà, que les rivières reprennent toujours
le chemin. Bien sûr, la nature reprend son cours, donc les gens parfois, par l'usage les coutumes sur place locale, savaient très bien qu'il y avait des zones qui étaient potentiellement à risque, voilà.
D'accord.
Mais maintenant, tout ça est institutionnalisé, donc il ne sera plus possible légalement de construire dans ces zones.
Alors, Christine, nous avons évoqué les choses à faire avant de construire, ou même
oui,
pas la construction.
Oui, je voulais rajouter aussi un élément important, mais malheureusement, ce n'est pas encore systématiquement obligatoire, mais c'est la réalisation d'une étude de sol préalable à la construction. Donc, nous insistons beaucoup à la DIL avec les personnes que nous recevons sur l'importance de réaliser en amont une étude de sol pour s'assurer, en dehors du plan de prévention des risques qui va vous donner des données sur la constructibilité et les aléas qui pourraient affecter la zone, le terrain en lui-même, le sol en lui-même peut constituer un obstacle à la construction en fonction de sa nature, de sa composition.
Oui, parfois les gens ne savent même pas que c'est un terrain qui a été remblayé.
Par exemple, ou bien peut-être qu'il y avait une mare,
voilà.
Peut-être qu'il y a une grosse roche calcaire. Voilà. Donc l'étude de sol consiste à faire un sondage du sol afin d'en analyser la nature et de mieux adapter et implanter le bâtiment. Et permettre aussi à l'ingénieur, au bureau d'études, de réaliser des plans en tenant compte de cette nature de sol particulière. Donc je dis souvent aux personnes qu'il n'est pas possible de faire exactement la même maison et les mêmes fondations à Trois-Rivières et à Gosier, puisque le sol est tout à fait différent. L'aléa, les risques sont différents. Donc il faut tenir compte de la nature du sol. Ça permet de mieux adapter sa construction, ses fondations et de se prémunir en cas de catastrophe.
D'accord. Alors, je disais que nous avons évoqué les dispositions à prendre avant de se lancer dans la construction.
Mm-hmm.
Nous avions déjà parlé tout à l'heure du suivi, voilà, de la mise en œuvre de la construction. Mais une fois que le bâtiment est terminé, livré et occupé, il y a encore des choses à faire, notamment en matière d'entretien.
Oui, alors il ne faut pas oublier, parce que maintenant les assureurs sont très attentifs à ça, vous avez effectivement construit votre maison, vous vous êtes attaché à respecter les normes, à passer par des professionnels compétents et disposant de toutes les garanties légales, mais après, une fois que votre construction vous a été livrée et remise, votre responsabilité, vous, en tant que propriétaire, c'est d'assurer le bon entretien de votre bien. Donc vérifier régulièrement votre toiture, c'est prendre des précautions pour assurer un entretien correct de votre bien. Parfois, maintenant, on observe que dans les contrats d'assurance, on peut vous opposer un défaut d'entretien du bien. Les assureurs, ils cherchent toujours un petit peu, souvent, la faille, pour ne pas avoir à rentrer en garantie de façon entière. Donc on vous dira, oui, certes, votre toiture a été bien conçue, elle était bien faite, mais vous n'avez pas pensé à vérifier les joints, à resserrer les boulons,
les
fixations.
Ouais.
Et si ça avait été fait, probablement que le cyclone n'aurait pas endommagé autant. Voilà, c'est un petit peu ça. L'assurance va chercher plus ou moins à vous rejeter une partie de la faute sur votre négligence à entretenir le bien. Donc il faut penser à faire ça régulièrement. Le mieux, c'est encore de demander conseil à votre constructeur, le charpentier, au charpentier qui a monté la toiture, pour assurer un bon entretien de votre toiture.
Alors justement, nous avons surtout parlé des constructions neuves, mais pour les maisons et les appartements vétustes, anciens, il y a aussi des normes à mettre en application. Je veux dire par là que les anciennes installations de plomberie, par exemple, doivent être remplacées puisque les normes actuelles ont changé déjà la nature même de...
C'est toujours un petit peu délicat cette question de normes, puisque ce qu'on vous demande, c'est c'est pas forcément d'être à chaque fois aux normes en vigueur actuelles, mais c'est qu'au moment où vous avez construit, que vous ayez respecté les normes du moment. c'est complètement utopique de suggérer à une personne de mettre continuellement aux normes son logement, puisque ça voudrait dire que chaque année, il ferait des travaux. À la vitesse à laquelle
les normes évoluent,
voilà. Parfois, ce ne sont pas forcément des éléments. Ce qu'on regarde, c'est surtout la sécurité et les risques. Donc, par exemple, concernant les installations électriques, vous pouvez avoir construit votre maison il y a 20 ans, en respectant les normes de l'époque, les normes d'il y a 20 ans, mais que cette installation soit parfaitement conforme et qu'elle ne présente aucun risque d'incendie ou d'électrocution, voilà. Donc c'est ce qu'on vous demande, c'est que l'installation aux normes de l'époque ne comporte pas de risque. Par contre, concernant la réglementation parasismique, ça a effectivement beaucoup évolué. C'est pourquoi maintenant, ben, les bâtiments publics, on se rend compte, notamment donc notre CHU, que les normes de construction, en fonction des connaissances aussi, que nous avions des risques naturels à l'époque. Il faut savoir que la recherche scientifique permet d'améliorer ses connaissances et d'adapter justement les normes, mais elle évolue à notre rythme et au rythme de nos possibilités. Donc les normes des années 70 ne sont pas celles des années 2000. Donc aujourd'hui, on propose également, enfin beaucoup d'entreprises se lancent dans des programmes de confortement sismique. Donc elles vont tenter, avec des bâtiments anciens, de rendre ces bâtiments plus solides en intervenant, il y a des processus, des possibilités d'intervenir sur des bâtiments anciens pour les conforter et les rendre plus parasismiques.
Là, je serais curieux d'avoir quelques informations là-dessus, parce que a priori, paraît assez compliqué.
C'est tout à fait envisageable. Ça, on y revient sur les fondations. Ce sont des travaux très lourds, mais il faut savoir que beaucoup de bailleurs sociaux, par exemple, on ne peut pas à chaque fois reconstruire. Donc, il faut tenter de, lorsque cela est possible, de conforter l'existant. Donc, parfois, c'est pas du tout possible. Donc, il faudra démolir et reconstruire. Donc, on voit effectivement, il suffit de se promener à Pointe-à-Pitre, hein, tous les programmes de rénovation urbaine. Bien sûr, les bâtiments des années 60 sont complètement ignorants des normes parasismiques. Donc, certains bâtiments ont été démolis pour être reconstruits selon les normes récentes. Mais parfois, ce n'est pas toujours possible parce que bon, il faut savoir qu'il n'y a pas toujours de terrain. On ne peut pas tout démolir et reconstruire. Donc, il est possible de faire du confortement, oui. Ça, les ingénieurs vous l'expliqueront probablement mieux que moi, mais il y a des techniques. Je le sais, des travaux lourds, mais même un particulier dans sa maison peut envisager des travaux de confortement, et ça va même plus loin, c'est que cette personne, comme ce sont des travaux quand même très lourds qui portent sur les fondations, la structure, elle peut également obtenir des avantages fiscaux et notamment mettre en œuvre le dispositif de défiscalisation Girardin pour obtenir donc la possibilité de défiscaliser le coût des travaux.
D'accord.
Donc il y a des dispositifs qui existent. Donc on invite des personnes qui seraient éventuellement intéressées à se rapprocher de nous pour savoir comment ça fonctionne. Mais même un particulier pourrait faire, avec les conseils d'un architecte, envisager de conforter son habitation pour la rendre plus solide à l'aléa sismique.
Ok. Eh bien, Christine, je te remercie infiniment. Nous avons beaucoup appris là aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs que cette émission sera rediffusée en cours de semaine. Et je t'indique à toi et à tes amis de la DIL que les antennes de Radio Massabielle sont toujours ouvertes à votre disposition. Donc si, à l'occasion, vous organisez, je sais pas quoi, une journée porte ouverte,
une
manifestation quelconque, enfin, que vous souhaitez repasser sur les zones, nous vous accueillerons vraiment très chaleureusement.
Merci.
Donc merci, non, c'est nous qui te remercions. Et on rappelle le numéro de téléphone?
Oui, alors je vais rappeler donc nos coordonnées. Donc nous sommes situés donc à Grand Camp, à proximité de la SIG et de la radio RCI. Bon, je sais pas,
voilà. Oui, on peut.
Voilà, donc voilà. Donc pour nous joindre au téléphone, il faut composer le 0590 89 43 63.
Voilà.
Donc je l'indiquais tout à l'heure, nous recevons principalement sur rendez-vous.
Ouais.
Mais il est possible de se rendre donc le mardi matin à la DIL, sans rendez-vous, le matin seulement, mais pour une permanence. Et nous tenons également une permanence mensuelle sur BMAO en mairie, donc au service urbanisme, et Petit Canal également à la Maison de la Citoyenneté. Et nous avons également une permanence au Centre Régional Information Jeunesse, boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre, donc une fois par mois. Pour les calendriers de permanence hors ADIL, il faut soit nous téléphoner, soit consulter sur notre site internet les jours et heures de permanence en mairie.
Et nos amis des Saintes, de Bagdalante, comment ils font ?
Eh bien, malheureusement, donc, nous n'avons pas de convention pour l'instant. On espère que ça va bien sûr changer, mais nous n'avons pas de convention avec l'ensemble des communes du département. Mais nous.
Bon, maintenant qu'il y a des communautés de communes,
voilà,
c'est
nous, la directrice, Mme Boujol, y travaille, et donc on souhaiterait effectivement avoir de nouveaux partenariats avec les autres agglomérations, toujours dans l'intérêt du particulier qui pourrait bénéficier d'un service de proximité.
Absolument.
Voilà. Donc c'est quelque chose sur lequel nous travaillons et nous espérons que ça va évoluer pour l'année à venir. Mais autrement, ben, nous les invitons gentiment à se rapprocher de nous. Voilà, par téléphone, c'est toujours possible d'avoir une réponse hein, pour une question rapide tous les matins. Entre 7h30 et 9h, il y a la permanence téléphonique assurée par moi-même et Madame Marie-Claude Louis, qui est la deuxième juriste de la DIL. Et donc, autrement, on reçoit sur rendez-vous du lundi au jeudi. Voilà. Donc, je rappelle aussi notre site internet, donc www.adil971.org. Adil971.org.
Adil, comme vous dites,
collé.
Et pour ceux qui veulent consulter le site national.
Le site national, donc c'est le site de l'ANIL, ANIL.org.
Non, tout simplement.
Voilà.
Facile. Bon, et bien encore une fois, merci beaucoup Christine.
Oui,
bonne fin de journée et à peut-être une prochaine occasion.
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Voilà, je vous donne rendez-vous donc, Michel me confirme, début septembre, le 3 septembre, hein. Je ne sais pas de quoi on parlera, mais enfin, je serai là avec vous. Au revoir, bonne journée.
Radio Massabielle 97.8, 101.8. Deux numéros de téléphone à votre disposition. 83 25 21 83 48 61.